du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Oh oh, je vois que tu as sorti le dictionnaire des titres et que donc l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à avancer dans la lettre B.
B comme bien.
Ah, B comme bien, très bien.
Et on va commencer par un drôle de truc, parce que c'est un nom de clown, figurez-vous.
Oui, ce clown-là s'appelait de son vrai nom Humphrey Harrington.
Mais son nom de clown, c'était Bigfoot Ham.
Et tu sais pourquoi ?
Eh bien oui, parce qu'il avait Bigfoot, ça veut dire les grands pieds, et effectivement, il devait avoir des chaussures de clown. Vous savez que vous avez tous vu un jour des énormes chaussures bien longues et bien gênantes. Et puis en plus, il y a Ham, qui est le diminutif de
Humphrey,
son prénom. Mais Ham, ça veut aussi dire
Le postérieur.
Ou le jambon.
Ou le jambon. C'était une sorte d'Auguste, en fait. Et à cette époque-là, car nous sommes très très loin dans les origines du jazz, là, c'est les tout premiers enregistrements. En l'occurrence, ce sera un solo de piano de Jelly Roll Morton. Et donc, à cette époque-là, le spectacle, ça se passait sous chapiteau, avec un programme tout à fait varié, où justement, notre ami Jelly Roll Morton pouvait très bien accompagner un clown. Hein, pourquoi pas ?
Et oui, parce que là, il n'était pas question d'avoir des micros, des machins et des trucs. Et même de l'électricité, ça devait être possible, mais pas forcément commode. Donc, tout se passait à l'ancienne. Hein.
Oui, et quand on compare les attirails absolument invraisemblables auxquels on a droit actuellement sur scène, c'est incroyable. On a une pieuse pensée pour ces extraordinaires chanteuses de l'époque.
Qui, sans micro, remplissait absolument ces espaces-là, même s'il y avait un monde fou. Mais attention, elles avaient de la voix. Hein.
Elles avaient de la voix et elles avaient aussi la fameuse technique du chapiteau. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai justement appris d'un vrai vieux musicien qui avait commencé sa vie musicale avant 14, sous chapiteau. Mais c'est un peu long à expliquer.
Ah.
Lorsque nous parlerons de lui, on reviendra sur le sujet. En attendant, vous allez avoir droit un des premiers solos de piano de l'illustre, de l'illustrissime Ferdinand Lamotte, dit Jelly Roll Morton, qui a vraiment marqué son époque et à qui le piano jazz doit beaucoup.
Thank you.
dans ce que nous allons vous passer, eh bien, le mot « big » va revenir. C'est très américain, ça, « big », grand. Ils aiment tout ce qui est grand.
Ah, c'est vrai. D'ailleurs, la dernière fois que nous avons abordé cette série consacrée au titre de jazz, nous avons par exemple parlé du Big Butter and Eggman, le BOF, de Big D, qui désigne la ville de Dallas. Et bien voici maintenant la grande maison, Big House. Ah, c'est pas n'importe quelle grande maison.
Oui. Big House Blues, avec Duke Ellington, s'il vous plaît.
Et exceptionnellement, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, Duke Ellington a enregistré avec une petite partie de son orchestre. Il y a juste un trompette, un trombone, un clarinettiste et une rythmique. Point final. Les autres avaient dû aller au bistrot ou au bain de mer. En tout cas, là, vous l'entendrez en petite formation. C'est très rare, hein, à cette époque-là.
Il faut quand même rajouter quelque chose à propos de ce titre. C'est que Big House, c'était comme ça qu'on appelait le pénitencier. C'était pas cadeau, là. Hein.
Ah non. Le pénitencier, ou la prison d'ailleurs, quelques points des États-Unis où on se trouve, le pénitencier de l'État s'appelle la Big House. Mais alors, naturellement, il y a la Big House des Big House qui est...
Sing Sing.
Voilà, et je pense que le morceau d'Ellington fait plutôt allusion à ce dernier endroit célébrissime.
Suivant, eh bien, c'est Big John Special. Et ça, c'est l'orchestre de Fletcher Anderson.
Oui, il s'agit d'un café qui s'appelait le Big John's.
N'oublions pas le S, qui veut dire que ça appartient à un certain John.
Hein. Ah oui, le apostrophe S est très important dans ce langage-là. Et ce café était une sorte de rendez-vous très populaire à Harlem pour les musiciens de certains grands orchestres, parce que c'était situé tout près d'endroits très fréquentés, très connus, où ils se produisaient le soir. En l'occurrence, là, le Big John's était juste à côté du Lafayette Theater.
Et il savait que là, il trouverait toujours, même très tard, un excellent accueil.
Et les copains, Ah, parce que ça compte, les copains. Tu sais, les rendez-vous d'orchestre, quand on ne s'est pas vu depuis un petit bout de temps et qu'on se retrouve tous au bistrot à côté de la salle de concert, c'est un grand moment.
C'est le petit frère de Fletcher Anderson, Horace, qui a écrit le morceau.
Oui, le propriétaire s'appelait en réalité John Reda. Il a donc eu son heure de gloire. Mais maintenant, grandeur et décadence, vous savez pas ce qu'est devenu le Big Jones ?
Oh, c'est un sort commun de ce genre d'endroit. Un supermarché !
Voilà, comme la cigale du boulevard Rochechouart à Paris. C'est devenu un supermarché.
Bah, c'est triste ou nest
Ah, même. C'est triste. Nous qui avons connu les grandes heures de la cigale, on peut vous dire qu'on est très triste quand on y pense. Voilà. Le morceau suivant, c'est toute une histoire qui se passe dans la banlieue nord de Chicago, dans une petite ville qui s'appelle Winnetka.
Là, naturellement, il y avait des musiciens. Naturellement, ils étaient en train de jouer. Et puis, la direction qui, elle, s'occupe pas trop, elle a ses horaires, ses machins, leur fait signe qu'il faut qu'ils dégagent.
Ah oui, parce qu'il y a un autre orchestre derrière.
Et là, les musiciens pas trop contents, mais voilà que le public, lui... Et pas content du tout. Ils veulent absolument que ça continue.
Et voilà, Tipa, que l'équipe de scène locale se met en tête de déménager les instruments de l'orchestre. Ça se passe de plus en plus mal. Il faut savoir qu'il s'agit de l'orchestre de Bob Crosby, qu'ils étaient tous très jeunes et extrêmement remontés. Et il paraît que c'est un orchestre où les débats étaient absolument acharnés et qui, à l'instar de l'orchestre de Charquet, que nous avons bien connu il y a déjà longtemps, était en quelque sorte en état de dissolution permanente.
Ça pétillait sec.
Bref, là, le batteur n'entend pas de cette oreille du tout. Il s'accroche à son matériel et il commence à jouer.
Ils sont plus que deux sur la scène. Le batteur...
Et le bassiste, oui, parce que Bob Hargart, le bassiste, n'a pas voulu quitter son copain Ray Bauduc, le batteur. Voilà, c'est comme ça. Il s'est accroché, il a commencé à jouer aussi.
Et puis alors, pour faire bonne mesure, on pouvait quand même pas les arrêter directement, les prendre à bras le corps. Eh bien, ces petits malins, ils ont commencé à inventer plein de paroles pour que ça dure le plus longtemps possible.
Le bassiste a attrapé le micro et a dit « Je vais maintenant dédier tout ce qui va être dit aux gens influents de Winnetka, c'est-à-dire vous, mesdemoiselles. »
Oh, bah, vous pensez, ça a bien plu quand même.
Et ça a duré, mais énormément. Quand tu vois les paroles que ça représente, il y a de quoi en faire un livre pratiquement. Et puis après, bah, comme c'était pas encore fini, le bassiste s'est approché du micro encore plus près. Il a commencé à siffler un petit blues sympa. Et c'est comme ça que cet orchestre a eu un succès monstre ce jour-là.
Et ça a été enregistré.
Eh bien, ils ont eu l'idée d'en faire un disque, qui a eu également un succès monstre.
Comme quoi, les circonstances. Hein. En tous les cas, c'est Big Noise. Hein.
Oui, alors Big Noise, c'est le terme d'argot, hein, donc qui désigne les gens influents d'une ville ou d'un village.
Mais c'est aussi un double jeu de mots, parce que big noise, ça veut dire beaucoup de bruit aussi.
Et voilà, en tout cas, les demoiselles de Winnetka devaient être ravies. Les gens de l'orchestre, une fois le disque enregistré, ont dû l'être également, puisque c'est le morceau le plus connu de l'orchestre de Bob Crosby. Et je sais bien que quelques-uns de nos auditeurs nous ont posé la question, mais qu'est-ce que vous avez avec cet orchestre de Bob Crosby, que vous l'avez passé déjà plusieurs fois de suite? Ben, c'est un peu le hasard des titres, et puis c'est aussi que c'était un orchestre tout à fait sympathique.
Et voici maintenant le dernier de nos bigs, Big Four Blues.
Eh bien, Big Four, c'est le surnom d'un train, figurez-vous. Il y a beaucoup de trains en Amérique qui ont eu des surnoms, parce que c'est des trains qui sont devenus mythiques, célèbres, parce que c'est très grand l'Amérique, et les villes, elles aussi ont leur légende. Quand tu penses à Nashville, quand tu penses à Chicago, quand tu penses à Nouvelle-Orléans. Tu penses aussi, là-bas, au train qui relie toutes ces cités, et en l'occurrence, c'était la ligne Cleveland-Cincinnati, Chicago, Saint-Louis. Et ça, ça fait quatre grandes villes très célèbres. Et c'est pour ça qu'on a donné à ce train le nom de Big Four. Ah, voilà. Les quatre grandes. Et là, nous allons entendre, et c'est là sans doute le plus important, nous allons entendre Leroy Carr.
Ce Leroy Carr, il a eu un destin un peu à part. Il venait d'une génération, je dirais, de chanteurs de blues qui étaient plutôt des gars de la campagne, qui chantait souvent dans un style relativement courant pour eux, sur des sujets relativement les mêmes, souvent. Et c'était un style, sans que ce soit critiquable, un peu plus primitif. Et lui, par contre, c'était un gars de la ville. Mais en même temps, il était nourri de ces chanteurs des campagnes. Et finalement, il a pris son propre style, plus fin, plus délicat, mais avec beaucoup de force quand même.
Oui, moi je pense aussi que c'était un poète. C'est un des grands poètes du blues, Leroy Carr, y compris dans sa manière de jouer du piano. Et c'est vrai que sa manière de chanter était très différente, à telle enseigne qu'on peut considérer que entre le blues qu'on a connu plus tard dans les grandes villes et le blues initial qui venait de la campagne, c'est une sorte de...
passeur.
Voilà. C'est un passeur que vous allez entendre là. Mais c'est un passeur qui a une énorme influence et dont la mort très jeune, parce qu'il est mort à 30 ans.
Oui, alors là, c'est moins rigolo. Hein. Il, oui, il là, est mort de boisson. Hein.
Oui,
il à 30 ans, ouais. Il fallait qu'à ce moment-là, ça descende sérieux. Hein.
Oui, ça descendait beaucoup. Et finalement, ça lui a coûté une néphrite aiguë qui n'a pas pu être récupérée. Et c'est comme ça qu'il est mort. C'est triste. C'était un grand homme, Leroy Carr. Justement, le voici. Le morceau suivant est un très beau morceau et aussi un très triste morceau quant aux circonstances qui l'ont inspiré, puisque c'est un hommage à une très grande artiste morte très jeune. Encore une.
Le titre, c'est Black Beauty. On ne peut pas être plus clair.
Ah oui.
C'était une femme superbe. Il s'agit de Florence Mills. C'était une star de revue. Elle était très populaire à Harlem. Et cette mort, bah écoutez, là, ce n'était pas la boisson, hein.
Non.
C'était la faute à pas de chance.
À pas de chance, quand on meurt d'une appendicite mal soignée, on peut se poser quelques questions tout de même.
Oui, chez nous, maintenant, mais à l'époque.
Oui, à l'époque, c'est vrai.
Franchement.
C'est vrai. En tout cas, elle est morte à 26 ans. C'est quand même pas vieux. En tout cas, c'était une des grandes célébrités de Harlem. Et les circonstances de cette disparition renvoient à un petit film qui a été tourné un peu plus tard avec Duke Ellington, dont le scénario est qu'une jeune artiste de music-hall, là on peut pas ne pas penser à Florence Mills,
bien sûr,
saisie d'un malaise sur scène, est emmenée et meurt peu après, entourée des musiciens. Et le film s'appelle Black and Tan Fantasy. À la fin du film, on voit Ellington avoir une larme dans l'œil.
Ah oui, pour émouvoir Ellington, il en fallait quand même. Hein.
Ouais, ça n'a pas dû arriver souvent. Black Beauty.
Et maintenant, Big Time Trip. Vous ferez remarquer que c'est le dernier du dernier Big. Hein.
Oui, parce que je me suis trompé. Là, j'ai été rattrapé par une erreur dans la liste alphabétique. Et voilà encore un Big, mais ce coup-ci, c'est vraiment le dernier.
Trip, ça veut dire boiteux. Et en réalité, c'était le surnom d'un danseur qui était boiteux et qui se produisait avec un orchestre. L'orchestre.
D'Andy Kirk, en l'occurrence.
C'est quand même étonnant. Hein.
C'est très étonnant. Il y a, sur YouTube, si vous fouinez bien, des danseurs estropiés qui mendiaient. Hein. Je me souviens d'un unijambiste qui dansait pour le compte d'un vendeur de médecine ambulant, tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Eh bien, ce type, il avait tiré parti de son infirmité. Il dansait extraordinairement bien. Alors, c'est un peu ça qui a dû arriver à ce creep.
D'ailleurs, on ne sait même pas son vrai nom.
Ah non.
On sait seulement son surnom de Creep.
Andy Kirk l'avait pris comme attraction sous le nom d'affiche de Big Time Creep. Tout le monde l'appelait Creep et on en restera là, puisque comme tu le disais très justement, personne n'a jamais su son vrai nom. C'est étonnant quand même. En tout cas, l'orchestre d'Andy Kirk, c'est un orchestre également très étonnant. Voici maintenant un grand classique du jazz. Il a été construit un peu à la va-vite sur les harmonies du rag, comme on dit, les musiciens comprendront de quoi je cause. Et ce morceau s'appelle « Bill Bailey, veux-tu bien rentrer à la maison ?»
Alors ça, c'est Kid Ory qui l'a...
Ah, c'est Kid Ory qui nous le joue, là, oui, absolument. Et je vais dire un truc, hein. Là, vous pouvez écouter Kid Ory jouer Bill Bailey. Ça, plus Nouvelle-Orléans, tu meurs.
Toute l'histoire, c'est que Bill Bailey, c'est un professeur de musique, et que mon Dieu, le professeur de musique, eh bien, quelquefois, il fait des virées nocturnes, et que sa femme est pas contente du tout. Bill Bailey, veux-tu revenir à la maison et un plus vite que ça ?
Et que ça saute !
Voilà. Bref, beaucoup de ces messieurs de la musique se retrouvaient dans Bill Bailey.
Et le pianiste de l'établissement où ce cher Bill Bailey passait facilement ses soirées a eu l'idée, quand il a appris quel traitement il recevait à la maison, d'en faire un morceau que vous allez donc entendre. Et il y a un détail piquant dans cette histoire. La femme de Bill Bailey a demandé le divorce au bout de 17 ans de mariage.
Elle l'a obtenu.
Et après, elle a vécu jusqu'à 100 ans passés.
Comme quoi ?
N'écoutez pas, mesdames. Thank you.
Le suivant, il est assez rigolo comme nom, c'est Black Bottom Stomp. Alors Black Bottom, ben c'est le cul noir, tout simplement, et Stomp...
Ah ben Stomp, c'est tout ce qui est danse un petit peu punchy. Quoique ça désigne également, inexplicablement pour moi d'ailleurs, certains morceaux sur tempo lent. Ah, ça c'est une autre affaire. En tout cas, Black Bottom, c'était aussi le surnom du quartier noir de Nashville, le plus pauvre quartier noir de Nashville, celui qui était au bord de la rivière. Et c'est devenu une danse.
Et alors cette danse, c'est tout à fait rigolo parce qu'en Auvergne, en Occitanie, je dirais même en France, bah on avait la même. Et ça s'appelle tout simplement le tape-cul.
Ici, ça s'appelle aussi la togne.
Oui. Quand on veut être très poli, on dit la togne.
C'est une variété de tape-cul. Et si vous voulez voir comment on danse le tape-cul sous le nom de Black Bottom, vous n'avez qu'à visionner ce fabuleux film, ce biopic de Bessie Smith qui s'appelle Bessie, dans lequel on voit Bessie Smith et Ma Rainey, enfin les actrices qui jouent les deux personnages, se retrouver un jour et puis évoquer le bon vieux temps et commencer à danser le tape-cul. C'est vraiment tout à fait étonnant. Et là, nous retrouvons Jelly Roll Morton, mais cette fois-ci, c'est en orchestre. Il est à la tête d'un formidable orchestre qui enregistrait exactement ce qu'il voulait, parce que Jelly Roll Morton était un homme extrêmement tatillon sur la musique, ça rigolait pas là.
Ah oui, là c'était le chef d'orchestre redouté. Il fallait obéir au doigt et à l'œil.
Au doigt, à l'œil et à l'anacrouse. Et cet orchestre s'appelait les Red Hot Peppers. Les voici qui vous jouent Black Bottom Stomp. Maintenant, si vous voulez danser une togne avec ça, ne vous gênez pas.
Et vous savez bien qu'à Radio Marjorie, tout est possible.
Et même tout est permis. Thank you.
On vous a parlé des chanteurs de blues des campagnes, là. Ben, il y avait des bruits qui circulaient dans les campagnes, qui étaient honnêtement des superstitions quand même. Hein. La nuit, naturellement. Il ne fallait pas entendre le hibou ululer en même temps
qu'un chat noir vous coupez la route.
Bah dites donc, ça fait quand même deux choses un peu compliquées, mais ça pouvait arriver.
Ah, il y en a une troisième très compliquée, c'est de voir un chat noir passer la nuit. Hein. Je me pose des questions. Peut-être il s'agit de deux superstitions parallèles.
Et ça voulait dire, il allait vous arriver les pires des choses.
Ah oui, ça de toute façon, c'est la poisse. Et ça, c'est chanté par Marainet.
Il y a une drôle de chose dans cet enregistrement, auditive. S'entend. Parce que Marainet, c'était une personne qui n'avait pas d'a priori sur les musiques, les instruments, etc. Elle est très, très ouverte.
Oui, là où certains voulaient vraiment quelque chose de très défini, on a l'impression que Marainet, ça lui était complètement égal du moment que les musiciens étaient bons. Et en l'occurrence, ce que vous allez entendre maintenant, qui s'appelle donc Black Cat Hoot All Blues, le chat et le hibou, c'est accompagné par deux kazous.
Les kazous, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est une sorte de tube qui a des trous. Et à l'époque, à la campagne, tout à fait à la campagne, on mettait une peau d'oignon, on chantait dedans. Et ça faisait comme un instrument. Ça faisait un peu comme ça. Et puis, un peu plus tard, on a fabriqué des kazous instruments, disons.
Oui, un peu plus rationnels.
Oui, un peu plus sûr.
Toujours avec une pelure d'oignon. Maintenant, on vous fournit une petite membrane en plastique qui remplace la pelure d'oignon.
Et c'est moins fragile parce que la pelure d'oignon, elle ne durait pas longtemps. Hein.
Mais il y a eu de très grands genres de casous, des types aussi efficaces qu'avec une trompette. Hein.
Ah oui.
Ça, c'est la fortune des instruments de fortune.
Le suivant s'appelle Black Maria Blues. Allez, essayez de deviner qui est Black Maria. Marie, toute noire. Allez, cherchez un peu dans la vie courante.
Eh bien, Black Maria, je vais vous le dire, parce que je sens que vous vous morfondez dans vos haut-parleurs. Eh bien, Black Maria, c'est le panier à salade. C'est la voiture noire extrêmement cubique, très bien fermée, avec des barreaux aux fenêtres, avec laquelle les flics arrivent pour vous embarquer et vous embarquer en prison.
Et oui, et c'est un peu courant hein, dans le milieu noir, parce que c'était un peu le principe, si on a un doute, on embarque tout de suite.
Exactement.
s'il est noir.
Il y a des tas de morceaux qui s'appellent Black Maria. Alors nous avons choisi ce Black Maria Blues parce qu'il fait entendre un excellent saxophoniste ténor, peu connu mais qui a eu une certaine notoriété, et qu'on y entend le trompettiste Doc Cheatham, que nous on a bien connu quand il était très vieux. Et c'est ce Doc Cheatham qui nous a donné la recette pour jouer sous chapiteau. Sans sono, sans micro, sans rien.
Vous vous attendiez pas à ça, hein ? Qu'on vous dise notre secret.
Ah, c'est un secret intéressant, et nous l'avons vu le pratiquer. Dans un chapiteau de 5000 places, eh bien c'est très simple. Il faut placer l'axe de la trompette parallèle à la pente du chapiteau. C'est pas la peine de prendre un micro. C'est le coup du confessionnal à lépreux dans certaines églises médiévales. C'est aussi la manière dont, quand on était gamin, on pouvait communiquer sur le quai du métro presque à mi-voix.
Oui, parce que le métro parisien, c'est un tunnel tout à fait arrondi. Si vous vous mettez bien près du mur et que vous parlez vers la hauteur, le son se dirige tout à fait naturellement vers l'autre côté de l'arrondi.
Ou votre copain entend tout ce que vous dites. Alors évidemment, il faut, pareil, il faut avoir l'axe de la parole parallèle à la voûte. Mais dans le chapiteau, on a l'impression que le son glisse le long du chapiteau et retombe en pluie sur tous les gens qui entendent. Doc Cheatham nous a vraiment épatés avec ce système. C'était son secret.
Le système peut se comprendre, c'est relativement simple. Ce sont des toiles tendues, les toiles des chapiteaux. Donc le son glisse le long de ces toiles tendues où il n'y a pas d'aspérité.
Nous allons nous finir pour aujourd'hui avec Fats Waller et un morceau délectable qui s'appelle
Black Raspberry Jam. Ce qui veut dire raspberry, c'est la framboise, black, c'est noir, tout le monde le sait, et jam, c'est la confiture. Mais ça veut dire aussi...
Ça veut dire mélange, mixage, tout ce qu'on veut. Et en fait, ça veut dire improvisation. C'est pour ça qu'on appelle les moments de détente des jazzmen quand ils se retrouvent et qu'ils improvisent tous ensemble sur des morceaux qu'ils ont quelquefois bien du mal à trouver, parce qu'il faut se mettre d'accord. On appelle ça une jam session. C'est une session où on improvise. Alors, Black Raspberry, figurez-vous qu'en Amérique, les framboises sont pas toutes rouges.
Elles peuvent être noires.
Voilà, il y a une espèce de framboise américaine qui est noire. Moi, j'en ai jamais trouvé, mais on peut en accepter l'augure. Et naturellement, comme les Blancs surnomment très souvent les Noirs mûrs, vous savez, les mûrs qu'on ramasse, là, les baies un peu sombres, ou framboises noires, tout simplement, voilà un morceau où on vous explique qu'il y a des Noirs qui sont en train de jammer. C'est tout bête. Et ça fait de soleil un tir à partie incroyable. Tout ce qu'on peut faire avec un peu de framboises noires.
Bon appétit.
Boys, there's a sample here to get a gift like jam here, something like that. I don't know what it is. I got mine. See, mine's black raspberry. Look out, here it is. Yes, yes. Wait a minute now. Here's me. I'm getting mine now. This fine Arabian jam, yes, yes.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.